Luc Michel, vous êtes géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales. Permettez-moi de vous remercier infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Luc Michel, l'Union européenne et la Russie ont dénoncé ces nouvelles sanctions américaines contre Nord Stream 2. Comment analysez-vous cette communauté de vues, cette fois-ci russo-européenne et cette fois-ci contre les États-Unis?
On est au cœur de toutes les fractures du bloc américano-occidental. J'ai appelé ça, dans un terme marxiste que j'ai adapté à la géopolitique, les contradictions internes du bloc américano-occidental ou du bloc atlantiste. Le problème, c'est que l'allié principal géopolitique, qui sont les pays occidentaux de l'Union européenne, c'est en même temps l'ennemi économique principal dans la guerre économique qui se fait entre les États-Unis et l'Europe. Il y a une guerre commerciale qui ne date pas de Trump, c'est une erreur de penser ça. La guerre commerciale, elle existe depuis le début des années 1980. Il y avait à l'époque d'ailleurs de nombreux auteurs américains qui avaient écrit des livres décrivant ce qu'ils appelaient la dérive européenne. Il y a également une guerre financière qui est la guerre du dollar contre l'euro. Dès que l'euro est apparu, il est apparu comme le rival du dollar, comme une monnaie capable de son rival au niveau mondial. Et pour de nombreux pays, de ce qu'on appelait encore le tiers-monde, l'euro est apparu comme une alternative. Elle explique d'ailleurs l'agressivité du bloc américain occidental contre des régimes comme ceux de Kadhafi ou de Saddam Hussein qui voulaient remplacer l'euro contre le dollar dans les ventes de pétrole pour échapper à la dollarisation du monde. Trump, évidemment, a exacerbé tout cela à un niveau jusqu'ici incroyable. Lorsque j'ai vu l'élection de Trump, j'ai dit que ce serait excellent pour tous les anti-américains dans le monde parce que les contradictions internes allaient tout à fait s'accentuer à un niveau jamais acquis. Dans l'affaire de Nord Stream, on est au cœur à la fois de cette contradiction interne, mais on touche aussi à des contradictions plus actuelles. La guerre du gaz, dont nous avons parlé dans notre précédent entretien, ce n'est pas seulement la volonté d'expansion de Erdogan en Méditerranée. C'est également une guerre que Trump fait à tous les grands pays producteurs de gaz au monde entier, à commencer par les Russes, à commencer par les Iraniens, à commencer évidemment par d'autres pays alternatifs, émergents. Le problème de la guerre du gaz, quel est-il? C'est que, et on arrive directement à votre question, c'est que depuis septembre 2015, les Américains qui étaient importateurs d'hydrocarbures sont devenus des exportateurs. Ils exportent du pétrole, ils exportent du gaz grâce à l'exploitation des hydrocarbures de schiste, et exploitation qui a commencé d'ailleurs dès le début du siècle au Texas, qui a continué pendant les années d'Obama, septembre 2015, il n'y a pas encore de Trump, c'est Obama, mais Trump a levé toutes les limites pour refaire des États-Unis une grande puissance exportatrice, parce qu'il a enlevé toutes les limites que Al Gore, Kerry, Obama avaient mis au niveau écologique. L'exploitation des hydrocarbures de schiste et particulièrement du gaz, elle se fait par une technique qu'on appelle fractale, qui est de l'injection à très grande puissance d'eau dans les sols. Elle pollue les nappes phréatiques, elle dégage extrêmement une grande pollution et évidemment, à un moment donné, l'Amérique du Nord va payer ça. Les Américains sont donc devenus les principaux exportateurs et particulièrement dans le domaine du gaz. Ils ont tout à fait bouleversé le marché mondial. Ils sont non seulement ce qu'on appelle le swinging state dans termes de marché du pétrole, c'est-à-dire que c'est eux aujourd'hui, et plus l'OPEP ou les Saoudiens, qui fixent le prix du baril de pétrole. Il est calculé sur les coûts à la marge du baril de pétrole de schiste, mais ils sont surtout la principale puissance mondiale exportatrice de gaz. Jusque-là, c'était les deux premiers étaient les Russes, puis les Iraniens. On avait le Qatar en septième position, la Turquie en septième position et le Qatar en troisième position. C'est ce qui explique aujourd'hui le rapprochement entre le Qatar et les Turcs, qui n'est pas seulement une question idéologique de soutien à l'islamisme radical. C'est aussi une alliance économique. Aujourd'hui, ce sont les Américains, les premiers exportateurs, et leur but, c'est de casser les Russes. Ils ont un grand rêve, et nous plongeons au cœur de votre question, c'est pour ça que j'ai fait ce long détour. Ils ont un rêve, c'est de remplacer les Russes comme fournisseurs de l'Europe occidentale, de l'Union européenne.
Et là, excusez-moi, Luc Michel, excusez-moi de vous couper la parole parce que là, vous mettez le point sur une question très, très importante. Vous dites que voilà, l'objectif du côté américain, c'est de casser la Russie, c'est de casser en quelque sorte l'Europe également. Quels sont les moyens de la Russie et de l'Union européenne pour faire face à une telle politique, Luc Michel?
Écoutez, pour le moment, la menace n'est pas immédiate puisque les réseaux de gazoducs n'existent pas encore. Ce sont des gazoducs qui partiraient des États-Unis en dessous, dans le sous-sol de l'océan Atlantique et qui arriveraient en Europe occidentale. Les Russes sont donc dans un moyen qui est extrêmement important puisque leur économie repose en grande partie sur les exportations d'hydrocarbures. L'économie russe est touchée au cœur, non seulement par les sanctions économiques, mais par la chute du prix du baril de pétrole et la chute des cours du gaz. C'est la même chose pour l'Iran, c'est la même chose pour les États pétro-gaziers du Moyen-Orient, c'est la même chose pour les États africains. Trump veut empêcher une seconde chose, c'est-à-dire que l'alternative géopolitique en Eurasie, c'est d'arracher l'Union européenne des bras du bloc américain et de le rattacher aux Russes et aux Chinois. Qu'est-ce qui fait la puissance américaine, et nous allons en venir à votre question, qu'est-ce qui fait la puissance américaine, c'est la possession géopolitique de l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, c'est le second poumon des États-Unis. La possession de l'Europe occidentale fait de facto des États-Unis la superpuissance mondiale. Ce sont les théories du Belge Jean Tirien et de l'Américain Zbigniew Brzezinski. Si on arrachait l'Europe occidentale, l'Amérique redevient une petite puissance régionale. Elle perd son expansion mondiale qui s'est effectuée entre 1917 et 1945. Vous verrez qu'il y a deux grands projets. C'est d'une part ce qu'on appelle l'unification eurasiatique, le néo-eurasisme, qui a été pensé non pas en Russie, mais à Bruxelles en 1964, entre 1964 et 1982, précisément par le Belge Jean Tirien. Un journal néerlandais qui s'appelle De Standaard a dit de Tirien qu'il était le Belge préféré de Poutine. Et les théories sont à partir du début des années 90, passées en Russie, mais ce ne sont pas des théories. Les Chinois aussi, vous verrez que les routes de la soie de Xi Jinping, elles aboutissent toutes dans l'Europe occidentale, à Birmingham, à Trieste, à Nantes en France, à Lisbonne au Portugal. C'est le même but. Il y a une alternative logique, c'est l'unification économique de l'Eurasie, avec l'Europe occidentale, la Russie et maintenant la Chine. La réaction allemande, elle s'exprime particulièrement parce que la clé du rapprochement qu'on pourrait appeler inter-asiatique ou inter-européen, c'est le rapprochement entre Berlin et Moscou. Il y a des théories géopolitiques qui parlent d'un espace économique Berlin-Moscou qui date de la fin des années 1920. À l'époque, les deux grands vaincus de la Première Guerre mondiale au traité de Versailles,
c'est d'une part l'Allemagne qui est démembrée et sanctionnée, déjà, et c'est la Russie qui a, à cause de la révolution d'octobre, qui a perdu la guerre, qui a perdu des territoires, qui est isolée. C'est déjà le containment. Il se rapproche. C'est ce qu'on appelle les théories du national-bolchevisme. Et il y a effectivement un rapprochement économique et militaire qui a lieu en Italie en 1922 au traité de Rapallo. C'est la grande peur des Occidentaux. C'est une Allemagne qui se tourne vers l'Union soviétique. C'est une des théories qui a permis, mais ça n'a pas duré, le fameux pacte Molotov-Ribbentrop de 1939, qui aurait pu donner une autre alternative géopolitique à la Seconde Guerre mondiale, s'il avait été maintenu. Aujourd'hui, Trump, avec brutalité, il révèle à la fois toutes les peurs occidentales, c'est-à-dire le rapprochement Union européenne-Berlin avec Moscou, parce que la géopolitique a maintenu cette équation géopolitique en marche, et pour les Russes, c'est quelque chose. Il s'agit évidemment de faire effondrer la puissance russe. Les Américains veulent faire du 21e siècle un siècle américain. Le grand géopoliticien George Friedman, qui était l'ancien patron du think tank Stratfor, c'est le think tank du Pentagone, explique qu'il y a une fenêtre d'opportunité géopolitique pour les Américains et ils ont la volonté, ils l'écrivent, ils ont la volonté de faire imploser la Russie en quatre États impuissants avant 2030, puis la Chine avant 2040, avec la fameuse question du Xinjiang dont on vient de parler, avec le vote du Parlement européen qui soutient le terrorisme en Chine. Les capacités de réaction des Européens et des Russes à la fois, elles sont extrêmement limitées. Elles sont extrêmement limitées, d'une part, parce que le marché mondial des hydrocarbures de schiste et en particulier du gaz n'est pas encore dédollarisé. C'est la première clé. C'est la première réaction. C'est la possibilité de réagir aux sanctions américaines, ça sera la dédollarisation, faisant échapper aux lois universelles américaines l'espace euro-russe. Mais c'est une possibilité, on en est encore loin. Simplement, aujourd'hui, Trump vient de révéler qu'on n'est plus simplement dans une guerre économique, on n'est plus seulement dans une guerre financière, on est avec l'Europe dans une guerre géopolitique et on est dans une guerre avec la Russie d'anéantissement. Trump a l'avantage sur les autres présidents américains, pour les anti-américains, c'est-à-dire qu'il agit avec brutalité, avec cynisme, avec violence, et ça choque évidemment les Européens. Vous avez vu que dans d'autres domaines, la question de l'Iran par exemple, les Européens, contre leurs intérêts géopolitiques, il faut le dire, se sont alignés, pas seulement via l'OTAN, mais aussi via l'Union européenne, se sont alignés sur les positions américaines. La question de Trump dans ce domaine du gaz, elle va bouleverser le tout. Ça explique également ce qui se passe actuellement en Méditerranée. Moi, je vous l'ai dit dans notre entretien, je suis persuadé que les États-Unis laissent faire Erdogan parce que en bouleversant le gaz en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord, ça va évidemment être un nouveau bouleversement du marché du gaz. Ça ne profite qu'aux Américains. Ça ne profite pas aux Européens qui sont les consommateurs principaux. Ça ne profite pas évidemment aux Russes qui vont encore voir leur marché se faire bouleverser. Il y a une tentative d'ailleurs de réaction mondiale. C'est la constitution de ce qu'on appelle le groupe des pays exportateurs de gaz. Il s'est réuni, c'est aussi l'actualité, il s'est réuni il y a 15 jours à Malabo en Guinée équatoriale. Les Russes étaient là, Gazprom, votre vice-président était là, les gens du Venezuela, mais aussi des puissances africaines, l'Algérie et l'Égypte, qui sont des grands exportateurs de gaz, sous l'égide d'un petit pays africain, mais qui est un Eldorado pétro-gazier, c'est la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a une particularité, elle est le pays leader, non pas de l'exportation de gaz, mais de ce qu'on appelle l'industrie gazière. Il y a une industrie qui se constitue dans le monde à partir des produits dérivés du gaz, et l'usine modèle, le laboratoire de ça, c'est une usine qui se situe sur l'île de Bioko, où est la capitale précisément de la Guinée équatoriale. C'est une usine qui s'appelle Punta Europa. J'avais déjà étudié ça dans une émission en 2015, et à l'époque, personne ne s'intéressait à cela. La question des Européens, elle va être simple, c'est-à-dire qu'elle est double. D'une part, évidemment, l'Europe ne peut pas totalement se lier, être soutenu dans le domaine du gaz par les États-Unis, ça serait être soutenu comme la Corse soutient le pendu. D'autre part, les Américains ne sont pas encore prêts à l'exportation. Vous savez que les pays européens dépendent particulièrement pour leur chauffage. Et vous savez qu'en Europe, bien qu'on parle de réchauffement climatique, l'Europe, elle connaît une nouvelle vague de froid en hiver. Il faut donc avoir la nécessité de se chauffer. Un grand nombre d'alternatives au nucléaire, puisqu'on n'a pas renouvelé à temps les centrales nucléaires européennes, en France, en Belgique particulièrement, mais aussi d'alternatives au pétrole et au charbon, c'est le gaz. Et donc, les Américains qui veulent s'imposer, qui veulent sanctionner, empêcher les livraisons de gaz russes en Europe, en même temps, les Américains ne sont pas encore prêts à répondre à la demande. Actuellement, on exporte le gaz américain avec l'équivalent des tankers du pétrole, de gigantesques bateaux, et ça ne permettrait pas de couvrir les besoins
merci
de l'Union
beaucoup.
Européenne.
Merci beaucoup, merci beaucoup, merci infiniment, Luc Michel, d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment.
Vous êtes sur un sujet, évidemment, qui ne permet pas une réponse rapide.
Exactement, non, c'était formidable et pertinente, comme toujours d'ailleurs, votre analyse, Luc Michel. Merci beaucoup.
Mais le gaz, c'est le gros, moi je dis ça depuis des années, ça va être le gros domaine parce que ça rallonge ce qu'on a appelé l'ère des hydrocarbures de schiste, ça rapproche de plus de 150 ans. Mmh. On a des réserves mondiales, pas seulement de pétrole de schiste, mais pour un siècle, hein. Et donc, toutes les prévisions qu'on avait faites, ce qu'on appelle le déclinisme, hein, la fin des États-Unis comme puissance mondiale, etc., c'est bouleversé par leur domination des hydrocarbures de schiste. Mm-hmm. Donc, c'est un dossier intéressant qui va faire s'éloigner l'Allemagne, évidemment, des États-Unis.